à toutes et à tous sur les ondes de Radio G 101.5 FM. Toute l'équipe du Planty à Écuyer, le coworking rural, collaboratif et gourmand incontournable du nord de l'agglomération angevine, est ravie de vous retrouver dans l'émission Les Plantes Vagabondes pour sa troisième saison, youpi, avec une équipe renforcée de nouveaux chroniqueurs. Au fil des saisons, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, nous serons accompagnés par Laura et Karine, productrices de plantes et préparations médicinales, Véronique, conteuse et hypnothérapeute, Marie, hydrobiologiste, qui nous parlera du cycle de l'eau, Caroline, sommelière, qui nous parlera de l'usage des plantes dans la vigne, Delphine, peintre en décor, qui nous parlera de plantes tinctoriales, et Marc, apiculteur, qui nous parlera des interactions avec les abeilles. Toute cette belle équipe vous fera partager ses compétences et savoirs sur la nature et les plantes sauvages. Allez, c'est parti, commençons. Je me levais avec le soleil et j'étais heureux. Je me promenais et j'étais heureux. Je voyais maman et j'étais heureux. Je la quittais et j'étais heureux. Je parcourais les bois, les coteaux. J'errais dans les vallons, je lisais. J'étais oisif. Je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j'aidais au ménage et le bonheur me suivait partout. Il n'était dans aucune chose assignable, il était tout en moi-même, il ne pouvait me quitter un seul instant. Quel plaisir de commencer en philosophie avec le plus naturaliste de tous, Jean-Jacques Rousseau, dans ses Confessions en 1765. La lecture de ce texte intime m'a ainsi incité à prolonger les instants de paix des vacances en faisant un pacte avec moi-même, un engagement pour garder le contact avec la vie. Consacrer une heure par semaine à ne rien faire dans le jardin, juste écouter, sentir, rêver, dessiner ou écrire. Une invitation à partager avec vous, dans votre jardin, sous votre balcon, dans un parc ou tout simplement auprès d'un arbre qui vous touche. N'hésitez pas à nous les faire partager. Après une pause estivale bien méritée, nous partons en effet à la découverte de la grande molène dont les inflorescences dressées rythment les paysages en cette fin d'été ensoleillée. Sur le velours des feuilles, les gouttes de rosée s'évanouissent au soleil de 9h. La rosette basale de la molène est toute ouate, coton vert ou gris tendre. C'est l'ornement discret de la garrigue venteuse, avec les buissons de thym ovales et les graminées sèches. Ainsi décrit Yves Pacalé, la molène, dans son ouvrage « L'odeur du soleil dans l'herbe ». Car oui, la molène apprécie tout particulièrement la chaleur, les expositions ensoleillées, les sols secs et catuyouteux. Originaire d'Europe, d'Afrique et d'Asie, elle a ensuite colonisé les Amériques, sans doute transportée par les semences de céréales. Plante solitaire et opportuniste, elle pousse en ponctuation dans les espaces libres, dès qu'une graine se retrouve au soleil et peut germer. Elle donne naissance la première année à une touffe de feuilles vert pâle et velues, telle une boule grise et duveteuse posée sur le sol. Comme beaucoup d'herbes sauvages, elle s'installe dans les endroits délaissés. La jolie boule de feuilles joliment imbriquée, petite pelote de douceur, amadoue les jardiniers qui instinctivement la trouvent jolie et digne d'intérêt. Les feuilles charnues et velues grandissent, s'étalent l'été suivant. Gorgées d'eau à l'intérieur et munies de poils qui retiennent la moindre goutte d'eau de pluie ou de rosée, elles sont une merveille de résistance à la chaleur. Cette pilosité est à l'origine de son nom de genre, verbascum, qui dérive de l'expression barbascum signifiant barbe. Certaines abeilles utilisent leurs poils pour confectionner leur nid, car dans la nature, tout se réutilise. « Si le soleil est à l'origine de la germination de la molène la première année, c'est au tour du froid hivernal d'induire sa floraison spectaculaire dans la seconde année de la vie de cette jolie bisannuelle. L'unique tige jaillit au cœur de la saison estivale de juin à août, atteignant parfois jusqu'à 2 mètres, parfois ramifiée en 2 ou 3 axes. La floraison jaune pâle illumine rues, chemins et jardins. Quelle bonne idée de ne pas l'avoir arrachée. L'épi de fleurs très denses occupe la moitié de la hampe. La partie basse reste feuillue pour alimenter les futures graines. Il s'ouvre progressivement du bas vers le haut. Chaque fleur s'épanouit une journée avant de faner. Chaque plante peut produire jusqu'à 240 000 graines minuscules qui restent en place jusqu'à l'hiver, période pendant laquelle elle fera le délice des chardonnerets, avant et après leur migration. Les graines gardent leur pouvoir germinatif jusqu'à plusieurs centaines d'années, parfois déclenchées suite à l'incendie. Si les feuilles se décomposent vite et disparaissent, les tiges florales, en revanche, restent dressées vaillamment tout l'hiver. La beauté graphique et majestueuse des épis ainsi que sa forte résistance à la sécheresse ont inspiré la création de nombreux cultivars commercialisés en jardinerie. Quelle dépense inutile, alors qu'elles s'invitent si joyeusement, toutes seules, dans nos quartiers et nos villages. Allez, je vous invite à faire une pause en chanson avec une jeune artiste nantaise, Colline Rioux, et sa chanson « Homme », où elle questionne l'omniprésence masculine dans les espaces communs, sans laisser de place aux femmes. Et si le rejet de la nature et sa destruction systématique étaient liés à l'effacement des femmes et de leurs activités? Je vous laisse y réfléchir en écoutant cette jolie chanson.
Au crépuscule, à la nuit tombée, quand seuls les phares viennent t'éclairer. Pourquoi la rue est à toi, homme à l'allure blessée, quand la nuit froide vient nous entourer, quand rien ne bouge, que tout reste figé, quand le silence vient te caresser. Pourquoi la rue est à toi, homme au visage marqué, quand le jour pointe le bout de son nez, l'aube du monde tout juste éveillée, quand tout résonne, un écho qui frissonne. J'aimerais m'enfuir au hasard quand vient le soir, au camp le monde dort. J'aimerais, tant pis si je ne m'en sors pas. À toi, homme, tu m'as blessé. Durant des siècles, tu m'as opprimé. Comme tant d'autres, tu m'as menotté. Pour seule raison, notre sexe opposé. Pourquoi le monde est à toi, homme, tu es piégé par le diktat d'une même pensée. Ouvre tes bras, regarde, je suis là. Ta sœur, ta mère, ton ami, ton allié. Pourquoi le monde est à toi, homme, tu dois changer. Comme le ciel, tu dois te dévoiler. Lâche les rênes, oh laisse-moi guider. Lâche mes ailes, laisse-moi respirer. J'aimerais m'enfuir au hasard quand vient le soir, au camp le monde dort. j'ai le droit de n'avoir peur quand résonnent mes pas, de marcher seule quand minuit a sonné. Si tu me croises, tu me laisseras passer.
Poursuivons avec la séquence interview de l'émission pour laisser la parole à Delphine, peintre en décor et tadellac, toute nouvelle adhérente du Planty qui s'installe cet automne justement au Planty pour notre plus grande joie. Bonjour Delphine, bienvenue dans les plantes vagabondes. Et d'être notre invitée aujourd'hui. Donc tu es nouvelle adhérente professionnelle du Planty, donc peintre en décor. Donc peux-tu nous en dire plus sur ton activité ?
Bonjour. Alors donc je suis Delphine Pichereau, peintre en décor, spécialisée en techniques anciennes, donc passionnée de patrimoine. Mais aussi artiste peintre. Dans mon travail de peintre en décor, c'est vraiment soit de la création, soit de la restauration. Donc tout ce qui est le décor, les fresques, les trompe-l'œil, les ornementations, quel que soit le support, que ce soit du bois, donc tout ce qui est boiserie, les murs, plafonds, des meubles, sur toile, tout est envisageable, que ce soit en fonction de projet ou de restauration dans des lieux divers.
D'accord. Et donc, tu as choisi de t'installer au Planty, donc c'est super. Comment tu vois ton activité au Planty ?
Alors ici, tout d'abord, c'est vraiment pour avoir un point d'attache par rapport à mon entreprise, mais aussi justement, pourquoi le Planty ? Parce que c'est un réseau, c'est humain, il y a du lien, et je pense que c'est important, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, de créer du lien, de faire des projets en commun. Donc l'idée d'être ici, c'est aussi de pouvoir partager des activités, d'organiser soit des ateliers pour des particuliers ou des professionnels, donc que ce soit en décoration ou en enduit, tadlac, lachaud, mais aussi de participer aux activités du lieu. Par rapport à l'accueil pour des entreprises ou des événements.
Et donc là, concrètement, tu vas commencer des nouvelles activités. Tu as proposé activités, je crois que c'est le mardi,
a
priori.
Oui, donc le mardi après-midi, donc des cours, pourquoi pas, des cours de peinture, alors que ce soit de la peinture traditionnelle, peinture à l'huile, mais aussi du décor. Donc des activités pour apprendre le trompe-l'œil, les fausses matières, la perspective, pourquoi pas accompagner des personnes qui ont envie justement de créer un décor chez elles, et moi sans forcément faire le décor, mais pourquoi pas accompagner dans la technique, mais aussi des ateliers plus liés à l'engagement vers la créativité autour du journal. Du journal, art journal, on pourrait dire, médiation artistique, où chacun va pouvoir appréhender, faire sortir une sorte de créativité personnelle, mais que ce soit pour, pas forcément pour devenir artiste, mais pourquoi pas dans tous les moments de sa vie, de se relier à soi pour s'engager dans d'autres pans de sa vie par la créativité, par le collage, l'expérimentation de la couleur, de la matière, voilà.
En tout cas, la créativité, nous, je pense que on en a besoin de beaucoup plus, de l'imagination aussi. Par contre, au Planty, on n'en manque pas. L'émission Les Plantes Vagabondes est une émission sur les plantes, mais aussi la nature de façon générale. Et comme tu travailles avec des techniques naturelles à partir de chaux, etc., et que tu es aussi une nouvelle chroniqueuse de l'émission Les Plantes Vagabondes, et donc toi, quand tu interviendras sur les chroniques, tu interviendras sur les plantes tinctoriales. Oui. Donc, peut-être justement un petit avant-goût par rapport à cette chronique.
L'histoire des couleurs est liée aux plantes depuis le Moyen-Âge, donc ça peut être intéressant justement d'évoquer dans l'émission ces thématiques, le lien avec les couleurs, avec l'histoire des teintures des vêtements, par exemple au Moyen-Âge, quelles plantes on utilisait, avec telle plante on va créer telle couleur, dans quel aussi secteur géographique, quelle terre a besoin cette plante pour pouvoir s'exprimer et et dans quelle tradition, pourquoi pas, on va utiliser plus telle plante ou voilà. C'est...
Bah, en tout cas, on a hâte d'écouter ces nouvelles chroniques et de faire le lien entre la terre, la couleur, etc. Et en plus, pour ceux qui passent aux plantilles, ils auront aussi l'opportunité de voir ton exposition, voilà, dont le vernissage a eu lieu pendant les Journées du patrimoine, mais qui est toujours présente aux plantilles. Merci à toi, Delphine.
Merci.
Le nom de genre Verbascum pourrait aussi venir du mot latin verbascum, qui signifie les mèches de lampe à l'époque romaine. Car les feuilles séchées et roulées de molène remplacent avantageusement les mèches de lampe très coûteuses à l'époque. Comme nous avons pu le constater, la grande molène ne passe pas inaperçue dans la nature, et ses grandes tiges dressées évoquent les cierges. La forme de leur ramification a peut-être même inspiré la forme des candélabres. Pour vous en convaincre, il faut savoir qu'elle a longtemps servi de torche végétale gratuite pour s'éclairer. Aujourd'hui, de nombreux surnoms témoignent encore de cet usage. Cierge de Notre-Dame, cierge royale, fleur de grand chandelier, ou encore herba luminaria. Sa longue tige séchée enduite de graisse devient la torche qui, à la Saint-Jean, enflamme les feux. L'usage de la molène est lié à la magie et à la sorcellerie, moyen de l'époque pour apporter la bonne fortune et la santé. Ainsi, la Saint-Jean est une période idéale du fait de nombreuses floraisons pour conjurer le mauvais sort et éloigner les maléfices. Pour protéger les troupeaux, par exemple, le rituel consiste à passer à travers un feu de brassée de bouillon blanc, l'autre nom de la molène, en poussant des cris perçants. On suspendait ensuite des tiges à moitié consumées dans les étables. Une feuille de molène portée autour du cou protège les voyageurs et, pour les travailleurs de force, une feuille dissimulée dans un foulard attaché autour du front empêche la sueur de ruisseler et éloigner la fatigue. Au Moyen-Âge, les longues feuilles duveteuses s'utilisent pour s'essuyer le fondement quand on est allé dehors. Cette tradition s'est répandue sur les autres continents, puisqu'au Far West, on la surnomme « cowboy toilet paper ». Quelle que soit l'époque, la nature est à l'origine de nombreuses innovations humaines, grâce au formidable talent de notre espèce pour observer et s'inspirer de ce qui l'entoure. En cette période d'accélération des processus, nous gagnerions à reprendre cette habitude qui nous a déjà tant de fois permis d'échapper au pire. Comme la molène fleurit l'été, elle est aussi surnommée herbe de la Saint-Fiacre, dont la fête se déroule le 30 août. Ce n'est pas un hasard si l'on sait qu'il s'agit du saint patron des jardiniers. Sans doute un signe du destin. Pour une raison qui nous échappe encore aujourd'hui, la molène porte le nom de tabac du diable, car même si sa feuille ressemble un peu à celle du tabac, l'allusion au diable reste un mystère. En revanche, les feuilles jaunes de la molène servent à teindre tissus et cheveux. Tiens, en parlant de plantes de jardinier, retrouvons Laura dans la chronique « Le bonheur est dans les simples » pour parler de plantes bio-indicatrices.
On peut utiliser les plantes sauvages, appelées aussi mauvaises herbes ou adventitis, qui recouvrent notre terrain afin de diagnostiquer la nature de notre sol. Ce diagnostic aura pour but de pouvoir agir sur la méthode appropriée pour aider le sol à retrouver son équilibre. Ces méthodes sont utilisées pour l'agriculture. Elles peuvent bien sûr s'appliquer pour notre travail du sol, pour notre potager par exemple. Les plantes bio-indicatrices sont issues d'un savoir empirique. L'observation du couvert végétal va nous aider à établir un autodiagnostic des caractéristiques et du fonctionnement du sol. Donc d'une année sur l'autre, selon les conditions climatiques, le travail du sol, les apports de fumure, la flore peut être va pouvoir être radicalement différente. Elles vont permettre de donner des indications sur le sol, c'est-à-dire donc sa structure, est-il compact, aéré, sa texture, c'est-à-dire son pourcentage d'argile, de limon ou de sable, et de sable, son pH, les pratiques humaines qui ont été faites comme pâturage, labour, amendement, et l'activité des micro-organismes, donc les bactéries et les champignons qui travaillent, qui rendent assimilables les éléments du sol par la plante. Les plantes bioindicatrices sont un outil de diagnostic donnant l'état du fonctionnement du sol à un moment donné. 150 plantes ont été étudiées. Le diagnostic va être d'autant plus juste s'il est confirmé par plusieurs espèces qui indiquent les mêmes caractéristiques. On peut aussi connaître les premiers gestes, ça va nous permettre donc de connaître les premiers gestes à effectuer pour améliorer la fertilité et la structure de notre sol. Il va falloir prendre, donc il faut prendre le temps d'observer comment les plantes colonisent le terrain, déterminer l'importance et la densité et la diversité des espèces qui s'y trouvent. Pour s'aider à l'identification, on peut utiliser l'application qui s'appelle PlanteNet, s'aider d'une flore ou aller par exemple sur un forum botanique. Vous pourrez utiliser donc ensuite l'encyclopédie des qui s'appelle donc les plantes bioindicatrices de Gérard Dusserre, qui est en 3 volumes, qui est la référence principale. On va pouvoir alors définir si son sol est acide. Donc les sols acides, ce sont des sols qui sont dits pauvres, où la vie microbienne est faible, et les plantes bioindicatrices des sols acides, par exemple, est la grande oseille. On pourra alors implanter sur ces sols un couvert végétal peu gourmand, type trèfle, seigle, vesce ou sarrasin. Si le sol est tassé ou compacté, ça ce sont des sols où l'air ne circule pas ou plus, peu, l'activité bactérienne donc diminue et une plante bioindicatrice est le grand plantain. On pourra relancer la vie microbienne grâce à un décompactage léger avec un outil type grelinette. Donc c'est un travail à 15 à 20 cm sous le sol. Ou si son sol est pauvre en argile et en matière organique, donc le lessivage, sa capacité de rétention donc correspond à sa capacité de stocker les éléments fertilisants et l'eau, elle est proportionnelle à la quantité d'argile, de limon et de l'humus. Un sol lessivé, dit lessivé, est un sol où il y a à l'absence du complexe argilo-humique. Une plante bio-indicatrice des sols pauvres en argile est la spergule des champs. Un apport de compost équilibré pourra renforcer le complexe argilo-humique. Ou si son sol est asphyxié ou hydromorphe, une plante bio-indicatrice des sols asphyxiés est le rumex à feuilles obtus. Une correction à apporter sera un couvert végétal riche en légumineuses. La molène, appelée aussi le bouillon blanc, signale un terrain sec et souvent silicieux. Elle indique également des sols légèrement acides à alcalins.
Poursuivons l'émission Les Plantes Vagabondes en évoquant les propriétés médicinales de la molène, notre invitée de la rentrée. La grande molène fait partie de la famille des scrofulariacées, dont le nom est en lien avec le mot scrofule. La scrofule, autrefois dénommée les écrouelles, désignait une affection des muqueuses dont la principale est une forme de tuberculose cervicale localisée dans les ganglions du cou. Les enfants y sont particulièrement sensibles. À l'origine, cette affection touche principalement les truies. Les rois de France ont la réputation de la guérir d'un simple contact à travers des cérémoniales élaborées qui ont duré jusqu'au XIXe siècle. Le lien de parenté avec la phtisie pulmonaire, établi ensuite, conduit naturellement à la soigner avec des plantes facilitant l'élimination des mucosités, d'où le nom de la famille des scrofulariacées. Riche en saponines et en mucilage, la grande molène est toute désignée pour traiter les affections pulmonaires préconisées par Pline l'Ancien et Hildegard de Bingen. Les premiers usages identifiés datent de l'Antiquité grâce aux écrits de Dioscoride, médecin et botaniste grec, il y a 2000 ans. Les décoctions et les infusions de feuilles facilitent l'expectoration et calment la toux. Les peuples indigènes d'Amérique préfèrent, eux, fumer les feuilles pour soigner les poumons et calmer l'asthme. Au Moyen Âge, la molène est aussi associée à d'autres fleurs aux propriétés similaires, comme la mauve, la violette ou le coquelicot, que nous avons décrites précédemment. Le terme de bouillon blanc est sans doute lié à son usage en infusion et à la pâle couleur des feuilles. L'huile de molène, quant à elle, soigne aussi les hémorroïdes, les verrues et les furoncles. La poudre de racine calme les affections cutanées. La grande molène s'invite là où l'on a besoin d'elle et ne reste pas où elle se sent inutile. En conclusion, si vous voulez profiter de ces magnifiques inflorescences et de ses propriétés médicinales et écologiques, laissez les herbes dans les terrains secs et remaniés. Ces graines n'attendent qu'un signe de vous, une invitation. Pour vous y encourager, méditez ces mots de Rousseau en guise de conclusion. Insensé, qui vous plaignez sans cesse de la nature, apprenez que tous vos maux viennent de vous.
Qui m'emmène ? Je vois défiler une campagne que je ne connais pas. Je vois des arbres, des plaines, un paysage que je ne côtoie pas. Chez moi, dans ma forteresse de plâtre et de ciment noir, il n'y a pas de tendresse pour le chêne et le loir. Pas de tendresse pour l'herbe frêle qui survit au trottoir. Comme une opposition à la vie que je mène, à mes principes, à ma raison. Des arbres, des plaines, un paysage qui ne m'appartient pas. Chez moi, dans ma fourmilière, il n'y a plus de ruisseaux. Dans ma fourmilière, on n'entend plus les oiseaux. Ils ont compris depuis longtemps. Les moteurs de nos autos avaient remplacé leurs gens. Remplacé leurs gens. Dans le train qui m'emmène, je pense à ce jour qui viendra, aux pommiers en fleurs et à l'enfant qui grandira. Un rêve, une lueur, une folie qui anime mon cœur. Un jour, les mains dans la terre, je viendrai te chercher près de. Tu seras en train de jouer et je saurai à cet instant, en regardant ton visage, que désormais je fais partie du paysage.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Attention, nous avons beaucoup d'émissions, elles sont sur deux pages. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie et Christelle sur Radio G101.5 FM. Toute l'équipe du Planty vous donne rendez-vous dans deux semaines pour partir à la rencontre du surprenant pourpier.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.